Je vous dis bonjour à tous, bienvenue au centre de Mitre Staniloae. Nous allons recommencer nos cours en 2016 et je vous propose une troisième séance concernant la maturation des rapports entre la théologie et la science à la recherche d'un ordre méthodologique. On va se concentrer aujourd'hui sur Clément d'Alexandrie et Origène. On parle beaucoup dans notre société de la vulgarisation d'un savoir. Il faut savoir qu'au sens large du terme, vulgariser un savoir, une culture, suppose les rendre accessibles au plus grand nombre en permettant au public non averti d'y accéder. C'est surtout dans les sciences qu'on utilise ce terme, vulgarisation. Donc celui qui les vulgarise, les connaissances, se consacre à les diffuser, à permettre une interaction des savoirs et cultures scientifiques avec les différents individus. Donc la mission de quelqu'un qui vulgarise, c'est d'écouter les préoccupations de non-scientifiques, qui est le public cible, leurs valeurs, leurs repères, et de réduire leur incompréhension face à des savoirs pour lesquels leur compétence est insuffisante par manque de formation. Bref, on peut dire que si nous avons des gens, des néophytes, des gens qui ne connaissent rien dans les sciences, celui qui vulgarise les connaissances scientifiques doit arriver à transmettre un savoir, une compréhension à des personnes qui normalement ne peuvent pas aboutir à cause de leurs ressources de connaissances insuffisantes, par manque de formation, par incompréhension. Voilà. Le vulgarisateur des sciences s'inspire de l'horizon d'attente du public auquel il s'adresse pour élaborer son discours. Il peut ainsi arriver à effacer les frontières entre la communauté des chercheurs et ceux qui utilisent leurs découvertes qui sont touchés par celles-ci. Pourquoi on parle de cela? Parce que tout simplement, on peut tirer nos propres conclusions par rapport au travail que les premiers chrétiens ou les chrétiens dans les premiers siècles ont pu faire, ont pu aboutir, justement pour donner accès à la connaissance de Dieu à des gens qui n'étaient pas du tout au courant avec la bonne nouvelle qui est la venue du Christ dans le monde. Donc, on peut dire que les apologies de l'Antiquité tardive, par exemple, sont des véritables démarches de vulgarisation du christianisme parmi ceux qui se trouvaient en dehors de l'espace ecclésial. C'est-à-dire, nous avons l'Église, nous avons la vie ecclésiale, nous avons, pardon, nous avons une connaissance d'ordre spirituel qui est pour l'instant inconnue ou inaccessible même aux gens qui sont en dehors de la vie de l'Église. Donc, ceux qui mènent la vie de l'Église se donnent la peine de pouvoir transmettre ce savoir aux autres, étant donné que ce savoir est salutaire. Comment ils ont pu le faire? L'idée, c'est qu'en regardant l'œuvre de vulgarisation scientifique à l'heure actuelle, on se rend compte qu'une des exigences de ce travail, c'est justement comprendre le niveau culturel et les attentes d'ordre intellectuel de ceux qui sont les demandeurs, qui cherchent à comprendre, et de ne pas exprimer la connaissance en ignorant leurs repères à eux. Donc on peut dire que les apologies de l'Antiquité tardive ont eu le mérite de contribuer au premier rapprochement entre la théologie et les différentes doctrines philosophiques et scientifiques, en permettant au grand public d'accéder à la vie chrétienne. C'est une vulgarisation. Je fais une toute petite parenthèse. Pour comparer les deux, si vulgariser les sciences suppose de réduire l'aridité de notions propres au savoir scientifique, pour le rendre accessible aux non-scientifiques dans une démarche intellectuelle et de traduction, vulgariser, entre guillemets, le christianisme demande de rendre accessibles les réalités spirituelles à ceux qui ne les connaissent pas à travers une expérience non pas tant intellectuelle que spirituelle. On voit la différence de registre intellectuel et spirituel. Rappelons-nous combien les apologistes ont travaillé à traduire, entre guillemets, le christianisme dans les langages culturels et intellectuels de leur époque, en œuvrant ainsi à l'édification d'un langage chrétien destiné à ceux qui ne savaient pas s'approcher du mystère chrétien autrement qu'en voulant gagner leur foi par la démonstration, comme l'affirme Clément d'Alexandrie. Pour cela, il faut voir Clément d'Alexandrie en une des œuvres essentielles qui lui appartient, les Stromates en 528, dans les sources chrétiennes. Donc, dans les deux cas, scientifique et théologique, il s'agit bien d'un travail de vulgarisation qui tient compte des préoccupations, des valeurs et des repères propres au public concerné. Donc, on peut dire que faire la vulgarisation suppose un travail de médiateur, de véritable passeur entre des univers culturels différents. Et ce travail a été mené par les apologistes du premier siècle chrétien, notamment vis-à-vis des milieux de lettres païens. Parce qu'on imagine bien qu'à l'époque, il y avait une école puissante qui, bien sûr, n'avait pas comme discipline celle que nous connaissons aujourd'hui dans le cursus universitaire, académique, mais c'était des disciplines un peu différentes, mais qu'on peut dire des disciplines qui intéressaient également les chrétiens, vu leur éducation à cette époque. Et donc, à travers leur éducation, les chrétiens éduqués ont pu dialoguer d'une façon nuancée avec les représentants de la culture de leur époque. Et donc, ces chrétiens ont cherché à réduire les incompréhensions concernant la vie de l'Église. On peut dire que sur le plan intellectuel, les apologistes ont tiré la pensée chrétienne de l'image de simplicité, de grossièreté qui était la sienne. Je cite pour cela Bernard Pouderon, Les apologistes grecs du deuxième siècle, édition Cerf, Paris 2015, 2005, page 320, en marquant les fondements d'une vie intellectuelle d'inspiration chrétienne. Sur le plan théologique, l'instrumentaire conceptuel, qui sera forgé petit à petit, se montrera extrêmement utile pour exprimer les vérités de la foi dans un langage accessible aux gens formés culturellement par l'hellénisme, conformément aux notions de la pensée grecque que la pensée grecque avait rendue commune. Donc, on peut dire que les premiers chrétiens, peut-être, ont donné l'image d'une certaine simplicité, étant donné qu'il ne s'agissait pas nécessairement des gens fortement cultivés, à part Saint Paul, l'apôtre. On ne peut pas dire que les autres étaient vraiment des gens hautement éduqués, mais en même temps, ça ne peut pas nuire à la force de transmission de l'Évangile, étant donné que c'est l'Esprit Saint qui s'en charge de cette transmission. Donc, et on peut dire que les apôtres, les saints apôtres, étaient des gens remplis du Saint-Esprit, donc ils accomplissaient parfaitement leur mission. Mais ce qu'on évoque ici, c'est le fait qu'on avait besoin également, ou le besoin se fait sentir petit à petit. Et le premier, nous avons vu, c'était Saint-Apôtre Paul. On avait besoin des gens qui pouvaient dialoguer avec des gens qui étaient éduqués, qui appartenaient à des classes de la haute société. Et donc, petit à petit, les apologistes, en nuançant ce genre de dialogue, ont donné une image, une autre image par rapport à la première. Donc, le christianisme dépasse l'image d'une doctrine, disons, portée par des gens simples, à une doctrine qui peut s'inspirer pour exprimer ses vérités, des notions véhiculées par les gens éduqués. Le travail de vulgarisation commencé par les apologistes, on revient au sujet de notre séance, sera continuée par les représentants de l'école d'Alexandrie, parmi lesquels notamment Clément et Origène au IIIe siècle. Les saints hiérarques cappadociens Basile le Grand, Grégoire de Nice et Grégoire le Théologien au IVe siècle. Et après, bien sûr, on passe aux synthèses patristiques. On va évoquer Maxime le Confesseur au VIIe siècle et Jean Damascène au VIIIe siècle. Le constat à l'heure actuelle, c'est que ces figures majeures du christianisme vont réussir à répondre non pas uniquement aux besoins de fidèles à l'intérieur de la vie ecclésiale, mais on peut dire qu'il y a des contributions fondamentales par rapport aux grandes préoccupations philosophiques et métaphysiques des hommes de leur temps. Donc, on peut estimer qu'ils ont développé une vraie méthodologie de dialogue entre la théologie chrétienne et les différentes doctrines philosophiques et scientifiques. Parce que ce n'est pas uniquement des points de dialogue, si vous voulez, mais c'est surtout une école, on peut dire, de dialogue, une méthodologie, une façon rigoureuse qui permettra aux chrétiens de rencontrer les connaissances du monde en étant en même temps bien conscients de leurs valeurs et du sens de leurs connaissances par rapport aux connaissances de ce monde. Donc, on va traiter aujourd'hui l'école d'Alexandrie et l'affirmation de la vocation dialogale de la théologie face à la culture philosophique et scientifique. Quand je parle de la vocation dialogale, je comprends bien que ce n'est pas uniquement des efforts, plus ou moins soutenu, mais qu'il s'agit d'une vraie vocation, parce que le chrétien, à travers l'Esprit Saint, trouve une façon inspirée de pouvoir dire le message évangélique à tout le monde. Et en fait, quand on parle de tout le monde, c'est chaque être humain qui est appelé à la conversion, à son salut, et dans ce sens-là, les chrétiens transmettent l'ouverture, si on peut dire, par rapport à l'Esprit Saint pour chaque être humain. Donc chaque être humain est appelé, que ce soit sa culture d'ordre philosophique, scientifique ou autre, quelles que soient ses préoccupations, est appelé à rencontrer le Christ. Et c'est ça que l'école d'Alexandrie, l'école chrétienne d'Alexandrie, voilà, par rapport à à travers ses représentants, a pu entamer à une époque où, en général, l'école était païenne. Clément d'Alexandrie, la philosophie en second Ancien Testament préparant la venue du Seigneur. C'est une affirmation extrêmement forte, parce que nous connaissons, nous, dans la vie de l'Église, l'importance de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament prépare la venue du Christ. Et le message de Jésus-Christ, le Seigneur, est forme, si vous voulez, le Nouveau Testament, la tradition de l'Église. Et donc, nous imaginons bien que ce message de notre Seigneur est préparé par le message ancien qui vient de la Sainte Trinité à travers les Écritures de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire les livres saints, c'est-à-dire le message que Dieu donne à l'humanité entière à travers l'histoire. Donc l'Ancien Testament ne fait que préparer la venue du Christ. Donc on ne peut pas comprendre finalement l'Ancien Testament si nous n'avons pas une vision nouveau testamentaire. On parle maintenant de Clément d'Alexandrie et de sa philosophie. Donc, l'affirmation forte que j'ai faite tout à l'heure, c'est que la philosophie constitue en quelque sorte d'Ancien Testament pour ceux qui n'ont pas connu l'Ancien Testament, c'est-à-dire pour les non-juifs. Et que la philosophie c'est l'affirmation forte de Clément d'Alexandrie, a pu conduire les âmes ou préparer au moins les âmes pour la venue du Seigneur. La création par l'ancien philosophe stoïcien Pantène, converti au christianisme d'une école de philosophie, à travers laquelle celui-ci proposait une véritable formation chrétienne, intégrée au contexte culturel de son temps, contribua à ce que ce grand carrefour culturel et intellectuel de l'Empire romain, qui était Alexandrie, devint l'un des milieux les plus fervents de la pensée chrétienne. Autrement dit, si on imagine Paris à l'heure actuelle, là où nous vivons, en étant une des capitales de la bibliographie dans plusieurs domaines de connaissances à notre époque, on imagine bien que proposer une école de pensée chrétienne à Paris, par exemple, structure dans ce milieu intellectuel la possibilité de découvrir, en comparant les doctrines différentes, en faisant l'expérience des différentes quêtes de vérité, dans ce contexte favorable à la pensée, on peut découvrir le christianisme et ses valeurs par rapport à d'autres pensées et à d'autres connaissances. Et donc, on imagine bien que comme aujourd'hui Paris peut attirer les gens qui travaillent dans des disciplines différentes, scientifiques ou pas, justement pour proposer non pas uniquement une bibliographie très complète, mais aussi la possibilité, le milieu physique où on peut rencontrer des chercheurs, des scientifiques et autres. On imagine bien qu'à l'époque, Alexandrie était un carrefour des valeurs et des cultures qui venaient de tout le monde, qui se croisaient ici. Et donc, Alexandrie était en quelque sorte une sorte de pépinière où on pouvait se cultiver, y compris dans la culture chrétienne, en profitant de la richesse de ce milieu. Au IIIe siècle, un ancien disciple de Pantène, Clément d'Alexandrie, devint enseignant dans cette école. Tout comme son maître, celui-ci eut le souci d'édifier un enseignement formateur et intégrateur au sens ecclésial. Formateur dans le sens où on se forme, on devient à travers l'enseignement de l'Église, intégrateur dans le sens où on devient de plus en plus partie du corps du Christ. Nous entrons par le baptême, mais après, c'est un approfondissement de la vie ecclésiale à travers la participation au Saint-Sacrement de l'Église, mais aussi à travers les connaissances qu'on peut découvrir. Les écrits de Clément d'Alexandrie, parmi lesquels nous retenons aujourd'hui essentiellement le protreptique, ou discours de persuasion des Grecs, le pédagogue et les stromates, proposaient un parcours en trois étapes qui, au-delà des contradictions des religions païennes et des systèmes philosophiques mis en évidence par certains philosophes eux-mêmes, feraient découvrir une religion plus spirituelle et moins idolâtre, le christianisme. Vous imaginez bien le point de difficulté à une époque où on était dans une société païenne, où on avait des dieux différents. Et quand on dit moins idolâtre, c'est qu'en soulignant la présence essentielle dans le monde d'un dieu unique, c'est vrai, trinité des personnes, mais unique selon sa nature, on était, en tant que chrétien, dans la position de défendre un monothéisme dans un milieu très difficile qui était, en réalité, idolâtre. Clément témoigne que cette découverte est possible en suivant l'unique pédagogue, Jésus-Christ, seul maître de la vérité dont la compétence enseignait est sans faille. Se convertir au christianisme représentait aussi pour Clément les prémices d'une régénération profonde de l'être humain, car suivre le pédagogue divin permettait de pouvoir disposer de toutes choses librement sans en devenir l'esclave, tout en luttant pour vaincre ses désirs contraires à la raison. Pour dire autrement, c'est un constat que n'importe quelle activité humaine faite au plus profond de ses fondements nous mène en quelque sorte dans un rapport de servitude par rapport à cette activité, parce qu'on devient les esclaves de ce que nous passionne. La passion, c'est vrai que dans le christianisme, on parle de mauvaise passion, c'est-à-dire des pièges en quelque sorte de nos activités humaines qui nous volent la liberté. Par exemple, fumer, c'est une mauvaise passion parce qu'on ne peut pas dire non à cette activité, et ainsi de suite. Donc, par rapport à tout cela, on constate qu'en réalité, n'importe quelle activité humaine qui est menée sans la grâce de Dieu nous rend esclaves. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est là en tant que pédagogue justement pour nous aider à nous investir au plus profond de notre être dans la seule activité humaine qui nous met à l'abri de tout esclavage, qui est le connaître. Parce que la grâce n'oblige jamais en quoi que ce soit, n'oblige personne à faire quoi que ce soit. La grâce est la garantie absolue de notre liberté humaine. Et la grâce, on l'obtient à travers la connaissance de Jésus-Christ, qui est la connaissance salutaire. Donc cela signifiait également s'en tenir à ce qui est simple, naturel, modéré, commode, favorable pour la santé. Je fais une toute petite parenthèse, si on regarde ce qu'on mange aujourd'hui, donc pour se dédier au goût, on est capable à l'heure actuelle d'altérer et de mettre des excipients différents dans la nourriture qui, bien sûr, peuvent nuire à notre santé. Je fais la parenthèse. De façon adaptée à l'âge ou à la réalité de chacun. Clément évoque aussi les vertus d'un équilibre divinement inspiré, agissant dans la vie de chacun, à la mesure où il assume l'enseignement du Christ. Sa contribution, la contribution de Clément, à la configuration d'un cadre d'articulation de la théologie avec ce qu'il considère comme étant les éléments de vérité présents dans les différentes doctrines philosophiques est importante. Donc Clément d'Alexandrie ne regarde pas uniquement la vérité dans le christianisme, au sens du christianisme, il essaie de voir, d'identifier des éléments de vérité présents dans les différentes doctrines philosophiques. Au méfiant de son temps, il répondait que la philosophie fut-elle inutile, s'il est utile d'établir son inutilité, elle devient utile. Car réfuter une doctrine philosophique ne peut pas se faire sans la connaître, d'autant plus que l'érudition du maître le recommande à la confiance de ses auditeurs, fait naître l'admiration chez les disciples et les rassemble autour de la vérité. On imagine bien l'atmosphère de cette époque, on avait des maîtres d'école qui déclenchaient l'admiration de ceux qui les suivaient. Donc nous avons des personnes qui attirent les disciples à cause de leur érudition. Donc par rapport aux gens qui reprochaient à Clément d'Alexandrie comme quoi ils s'investissent trop, ou qui s'investissent justement dans les doctrines philosophiques, et on voit ici que Clément était un passionné de la connaissance et des savoirs différents dans une analyse critique de leurs points forts ou faibles par rapport au christianisme. Donc il dit tout simplement que connaître ces doctrines, c'est pouvoir aussi les réfuter. Au sein d'une société où les sophistes trouvaient leur gloire dans l'exercice spirituellement stérile, des plaidoiries qui suscitaient l'admiration et l'approbation de l'auditoire, Clément se demande pourquoi ne pas utiliser les mêmes armes pour défendre la doctrine chrétienne, en faisant preuve de cette érudition tant aimée parmi les païens, donc un moyen d'ordre apologétique. Pourtant, aux yeux de Clément, la philosophie est plus importante que cela. Elle est une image évidente de la vérité donc remise aux Grecs par Dieu. De même que de Dieu provenaient aussi le courage, la sagesse et la compétence pour utiliser ce don à bon escient. Il dit à un certain moment, le ver ne peut pas, certes, que celui qui a cru reste inerte à l'égard de la vérité et en fait paresseux, mais il enseigne à cette recherche un but, la découverte. Dans la vision de Clément, la philosophie des Grecs, celle par laquelle Dieu a préparé en éclairant la raison humaine le peuple qui n'avait pas connu la révélation judaïque, annonce la rencontre avec la lumière divine de la connaissance révélée par le Christ. Car si avant la venue du Seigneur, la philosophie était indispensable aux Grecs pour les conduire à la justice, maintenant elle devient utile pour les conduire à la vénération de Dieu. Ce qui est la force de ce témoignage, c'est justement le fait qu'il ne jette pas à la poubelle l'héritage culturel d'un peuple, mais qu'il dit tout simplement que cet héritage peut aider ce peuple à arriver à la vénération du vrai Dieu. Donc, question, Dieu a-t-il remplacé la philosophie par la foi? Donc, si on fait la lecture de Clément d'Alexandrie, on constate que la loi de l'Ancien Testament nous apporte la réponse. De même que celle-ci n'a pas été abandonnée, mais perfectionnée et accomplie dans le Christ, de même la philosophie, une sorte d'Ancien Testament des Grecs, se voit accomplie dans la théologie chrétienne. Moi, je pense que c'est une première pour la théologie patristique. Ici s'exprime l'originalité de la pensée de Clément d'Alexandrie, parce qu'on dit qu'à côté de l'Ancien Testament judaïque se trouve un deuxième, entre guillemets, Ancien Testament, qui est celui de la philosophie, qui a préparé et qui prépare la venue du Rédempteur. Les deux testaments se présentent comme une propédeutique nécessaire à la rencontre plénière entre l'homme et Dieu. Et je vous cite maintenant Clément d'Alexandrie. Dieu est la cause de toutes les bonnes choses, des unes immédiatement et pour elles-mêmes, comme de l'Ancien et le Nouveau Testament, des autres par corollaire, comme de la philosophie. Vous voyez la distinction. Peut-être même la philosophie a-t-elle été donnée, elle aussi, comme un bien direct aux Grecs, avant que le Seigneur eût élargi son appel jusqu'à eux. Car elle faisait leur éducation, tout comme la loi, celle des Juifs, pour aller au Christ. La philosophie est un travail préparatoire, elle ouvre la route à celui que le Christ rend ensuite parfait. C'est très sympa parce qu'on évoque aussi la perfection. La perfection, la vie chrétienne est un appel à la perfection de la vie humaine. Clément évoque l'utilité d'apprendre ce que disent les différentes doctrines philosophiques en tant que sorte de gymnastique qui sert à la démonstration de la foi. Donc on se prépare et il y a des images qui sont très belles. Par exemple, ces gymnastiques qui préparent, qui chauffent justement pour pouvoir s'approcher de la vérité plénière qui est dans le Seigneur par la foi et par la vie de l'Église. Il est d'avis qu'on peut récolter du bon dans chacune, mais comme dans la parabole évangélique du semeur qu'il cite, les moments, les lieux et les terrains récepteurs ont engendré des différences concernant l'accueil de la sagesse divine dans le monde. D'où le besoin d'un discernement spirituel afin de choisir ce qui convient parmi leurs enseignements. Bernard Pouderon nous donne cette note par rapport au caractère apologétique de cette démarche. Il dit que ce genre de témoignage sert à témoigner du christianisme en tant que système intellectuellement cohérent, surtout auprès des milieux lettrés qui exigent ce genre de témoignage. C'est-à-dire, s'il y a des exigences, le christianisme doit obéir en quelque sorte justement pour gagner les gens qui sont structurés par ce genre d'exigences intellectuelles. Pourtant, les milieux moins cultivés reprochent justement à Clément l'introduction dans sa théologie de spéculation, donc il ne voit pas l'utilité. Donc les simples ne voient pas l'utilité, mais les compliqués je plaisante, mais quand même les intellectuels, ceux qui cherchent plus intellectuellement parlant, ils trouvent justement une réponse par rapport à leurs besoins dans la théologie de Clément. Clément défend cependant sa position à l'avantage des uns comme des autres. Il répond d'abord à ceux qui prétendent ne pas toucher à la philosophie ni à la dialectique et qui ne sont pas intéressés par les secrets des sciences naturelles, qui ne demandent que la foi nue, par une plaidoirie sur l'importance de ces différents enseignements, l'entraînement qu'ils procurent est prémisse d'un meilleur accueil de la foi, ainsi que d'un futur succès dans les combats contre les hérésies. Et je cite Clément d'Alexandrie: on n'est fort en agriculture et en médecine que si l'on a tâté des enseignements variés qui vous rendent plus aptes à cultiver ou guérir. De même ici, j'appelle fort, entre guillemets, celui qui oriente toutes ses activités vers la vérité, si bien qu'ayant de la géométrie, de la musique, de la grammaire, de la philosophie même, ce qu'elles ont d'utile, il garde bien sa foi à l'abri de toutes les attaques. C'est une image qui sera mise en évidence plus tard par Saint Basile le Grand dans le préambule de son ouvrage aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques. Quand Saint Basile le Grand parle de l'entraînement par des exercices variés dont ils tirent profit, ceux qui le font, l'heure de la bataille venue. Et j'ai cité Saint Basile le Grand aux jeunes gens de la manière, sur la manière de tirer profit des lettres helléniques, édition Les Belles Lettres, Paris 65, la page 43. En même temps, Clément dit que la philosophie grecque n'est pas un élément indispensable, n'est pas la cause de la théologie, mais elle peut cependant être un adjuvant. Le chrétien trouve dans la philosophie une ancilla theologiae. Dieu a constitué la philosophie comme formation préparatoire à la connaissance de la foi. Donc, on peut se servir de la philosophie, mais avec discernement, pour s'investir dans une sorte de propédeutique. L'instruction, selon Clément, ainsi que la réflexion philosophique en général, peuvent servir à l'exercice d'approfondissement de la foi, une fois cette dernière acquise. Donc, on voit la propédeutique, mais on voit aussi l'aide, une fois que nous avons la foi, car la foi germe mieux dans une âme exercée à la science. L'instruction apporte également une clarté de style qui aide à la transmission de la vérité. C'est la même chose à l'heure actuelle. Elle constitue un outil qui sert à cultiver sa vie théologique et à en récolter les fruits. La philosophie précède le repos que nous trouvons enfin dans le Christ. Donc, vous voyez ce double mouvement, donc avant la foi comme préparation propédeutique, après la foi comme une acquisition d'un style persan qui puisse aider les autres. Étienne Gilson dit, en synthétisant la vision de Clément, dit que la philosophie précède le repos que nous trouvons enfin dans le Christ, car elle exerce la pensée, éveille l'intelligence, aiguise l'esprit afin qu'il s'instruise dans la véritable philosophie que les croyants possèdent grâce à la vérité suprême. La vérité suprême que les chrétiens possèdent, c'est la présence de Jésus-Christ lui-même. Nous convenons qu'on atteindra la vertu plus facilement et plus vite avec une culture préalable, propose Clément, sans nier qu'elle puisse s'attendre sans se secours. C'est-à-dire, on peut toucher la théologie, bien sûr, sans être conditionné par les connaissances philosophiques, mais quand tu as une culture, ça peut te servir justement pour approfondir et pour bâtir ta foi en utilisant les éléments de ce monde. Se cultiver signifie pour Clément justement pouvoir bénéficier d'une instruction. Même si Clément admet que la foi soit distincte de la connaissance, étant fondamentalement une sorte de perception directe des réalités spirituelles, il accorde l'importance à l'instruction, nécessaire selon lui aux chrétiens pour approfondir leur foi, quand sans étude, on ne peut comprendre les doctrines de la foi. En opposition à la foi nue, simple, il parle de la foi exercée par la science, une notion extrêmement intéressante, c'est-à-dire celle qui met en pratique les dons reçus de l'éducation profane et qui permet aux chrétiens d'accueillir les idées justes ainsi que de rejeter les idées étrangères à une vision ecclésiale. Pour qu'on puisse vous familiariser avec la pensée de Clément, je propose aussi la lecture de certaines citations. Par exemple, Clément interprète « Ne t'attarde pas auprès de l'étrangère » dans le sens qu'il nous recommande d'user de la culture mondaine, mais de ne pas nous y attarder, nous y installer. Car les dons intellectuels qui ont été faits à chaque génération au moment opportun ne sont qu'une instruction préparatoire à la parole du Seigneur. C'est très beau. Également, on peut dire, Clément se demande comment certains se faisaient fort de récolter immédiatement les grappes, sans soigner d'abord la vigne, car il faut tailler, piocher, relever, user de la serpe, du hoyau et autres instruments aratoires pour la soigner si nous voulons qu'elle nous offre son fruit savoureux. Il entend par vigne le Seigneur, de qui nous devons vendanger les fruits moyennant les soins d'une culture savante qui se fait par le travail de la raison. N'oublions pas en même temps que la raison est donnée par Dieu lui-même à l'homme. Par exemple, on se souvient de Saint Basile le Grand qui interprète la parole divine de la création, créant l'homme à notre image, pardonnons-lui la supériorité de la raison. Pour cela, il faut voir Basile de Césarée sur l'origine de l'homme, édition du Cerf, 90, page 92. Revenons maintenant à Clément d'Alexandrie. Nous pouvons préciser que Clément ne parle pas d'une instruction tout court, mais d'une instruction divine, c'est-à-dire inspirée par le pédagogue divin qui est le Christ lui-même, et à travers laquelle le bien caché dans la création s'allume quand l'âme a été formée par l'éducation à choisir le meilleur parti. Il y a aussi une critique chez Clément par rapport aux doctrines étrangères, la vision ecclésiale. Il constate que certains philosophes divinisent les éléments, il mentionne pour cela, par exemple, Diogène qui adore l'air, Thalès l'eau, Hippasos qui fait du feu son centre d'intérêt, et comme ça. Tout simplement, on rejette ce genre d'esclavage à des sens qui sont plus petits que les sens chrétiens. Parlant de la vérité, Clément n'hésite pas à faire la distinction entre la vérité inscrite dans la géométrie, la musique ou bien la philosophie, et qu'il nomme vérité grecque, et la seule vérité souveraine, incontestable, celle que nous enseigne le Fils de Dieu. Je fais une toute petite parenthèse, il faut voir plus tard Saint Grégoire Palamas sur la distinction entre la vérité chrétienne et la vérité des sciences. Dans sa triade 2 en 4, défense des sens essicastes. Je reviens à Clément. En suivant cette pédagogie, la pédagogie de notre pédagogue Jésus-Christ, il nous est possible, affirme Clément, d'éviter les produits néfastes des philosophies grecques, c'est-à-dire les résultats de raisonnements purement humains, privés de l'appui de l'inspiration divine, et de choisir ce qui a été discerné comme bon dans chacune de ces écoles. On parle, d'une certaine façon, à travers l'image contemporaine d'un puzzle, des vérités partielles à travers lesquelles, bien sûr, on peut contempler la vérité avec majuscule, qui est le Christ lui-même, à condition qu'on rassemble bien les pièces différentes du puzzle. Clément défend l'idée de l'origine providentielle de la philosophie. Ce qui est évident, c'est que quand on parle de la philosophie, Clément ne parle pas nécessairement de la même façon que notre époque évoque la philosophie, parce qu'à cette époque, la philosophie était une quête existentielle en quelque sorte. Et cette philosophie touchait toutes les réalités de ce monde et pouvait se mêler aussi avec les réalités de au-delà, ce qui n'est pas le cas de notre philosophie à notre époque. On passe à Origène et à l'intérêt apologétique de la culture philosophique. Clément sera suivi par Origène. Origène est le plus brillant de ses élèves de l'école d'Alexandrie et son successeur enflammé. Peut-être un peu moins enthousiaste que Clément vis-à-vis de la philosophie grecque, ce dernier était pourtant bien conscient de son importance. Il rejeta les positions extrêmes comme celle de Tertullien. Il prépare par ses écrits le terrain des développements méthodologiques des trois hiérarques cappadociens, Saint Basile le Grand, Grégoire de Nice et Grégoire le Théologien. Pour tout ce qui concerne les rapports possibles entre la théologie et les sciences du dehors, ce syntagme, vous allez le rencontrer plus tard aussi. Le théologien catholique Henri Crouzel, dans son étude, parle de l'attitude d'Origène qui choisit de ne pas rejeter la connaissance des différentes doctrines philosophiques. Une telle attitude est ruineuse pour l'apostolat. Ce refus condamnerait le chrétien à rester d'une certaine façon pauvre au milieu de ses richesses, lui interdisant d'utiliser ses facultés humaines de raisonnement et d'expression pour les communiquer, les défendre, les explorer. Tout discernement serait alors supprimé malgré ce mot de Saint Paul, souvent invoqué par l'Alexandrin. Éprouvez tout, retenez le bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Comme le disciple de Christ, la vérité refuserait-il de reconnaître pour rendre grâce à Dieu les parcelles de vérité qu'il trouve en dehors du christianisme? Question. Origène se remarque par une érudition impressionnante. Il va influencer la pensée théologique des générations chrétiennes qui vont le suivre. Il y a des erreurs doctrinales de jeunesse qui vont être sanctionnées dans le 5e concile œcuménique. Mais au-delà de certaines difficultés, sa position au sujet des rapports entre théologie et culture me semble, de par sa richesse d'enseignement, et l'utilité qui peut en découler, mérite d'être intégrée dans l'exercice de notre discernement au sein de la vie ecclésiale. Il faut savoir qu'il y a des noms célèbres qui s'inspirent de lui, Saint Pamphile, Saint Grégoire le Thaumaturge, Saint Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Didyme l'Aveugle. L'intérêt d'Origène pour le dialogue avec les représentants de la culture profane est justifié d'abord par des raisons apologétique. Origène témoigne de la nécessité du dialogue, mais aussi de l'instruction, afin que ce dialogue ne se déroule pas pour le chrétien en territoire inconnu. Il ressent le besoin de mettre à la disposition de tous les chrétiens une véritable instruction, afin qu'ils puissent mieux comprendre et défendre leur foi. La théologie peut être enrichie par la culture philosophique, affirme-t-il. Car le chrétien approfondit grâce à elle sa conscience de la portée des Écritures. C'est le genre d'argument que nous avons vu déjà chez Clément. Après, il faut jouer le discernement. Henri Crouzel considère qu'Origène se sert donc des philosophies comme d'outils de travail, ayant comme but principal l'édification de la théologie. Il voit l'intérêt apologétique de la culture philosophique. ainsi que son apport précieux pour aider à prendre plus nettement conscience du donné scripturaire. Dans sa lettre adressée à Grégoire le thaumaturge, il s'exhorte celui-ci à prendre de la philosophie grecque tout ce qui peut servir d'enseignement propédeutique pour introduire le christianisme, et de même de la géométrie, de l'astronomie, tout ce qui sera utile à l'interprétation de l'écriture sainte. Il fait appel à une image tirée du livre de l'Exode et illustre à quoi étaient utiles pour les fils d'Israël les objets reçus d'Égypte, objets dont les Égyptiens ne se servaient pas comme il le fallait, mais dont les Hébreux se servirent grâce à la sagesse de Dieu pour l'honorer. Il y a plusieurs images chez Origène qui sont d'une beauté, d'une splendeur de beauté qu'on ne trouve pas facilement à toutes les époques. Je donne par exemple lettre d'Origène à Grégoire le thaumaturge. Avec les dépouilles prises aux Égyptiens par les fils d'Israël, fut donc fabriqué le mobilier du sang des saints. L'arche avec son couvercle, les chérubins, le propitiatoire, le vase d'eau qui renfermait la manne, le pan des anges. Ces objets étaient vraisemblablement faits de plus belles or des Égyptiens. Donc, il y a des idées, une idée forte chez Origène. Il regarde ce que les Juifs ont pu prendre de la part des autres peuples, et justement, il trouve dans ces images la force d'une métaphore qui souligne l'importance, l'intérêt que les chrétiens prennent de leur milieu environnant, ce qui peut leur servir à l'édification de leur témoignage chrétien. Les images, cette image issue de l'exégèse d'Origène, nous est offerte comme un chef-d'œuvre d'éloquence pour illustrer les rapports entre la théologie et l'exercice de la raison. Il fait l'extraction des images des types dans l'Ancien Testament afin de soutenir les enseignements spirituels dédiés à ses contemporains. Par exemple, les fils de l'Église sont appelés faiseurs d'énigmes parce qu'ils comprennent en esprit les figures de la loi. Ainsi, ce qu'il appelle les dépouilles des Égyptiens prises par les fils d'Israël, qui seront transformés en objets utiles au culte divin, ne sont pour Origène que les outils de l'instruction mis au service de la démarche théologique. Les dépouilles des Égyptiens, dans la lecture de Henri Crouzel, c'est tout ce que le chrétien reçoit de la civilisation ambiante. Donc il y a un esprit d'ouverture, une façon de comprendre ce que la société produit justement, pour pouvoir en tirer profit, pour pouvoir se servir de ces richesses justement pour bâtir ou pour donner accès à la richesse encore plus grande qui est la richesse de la découverte de Dieu. L'Égypte, voilà, selon Clément, c'est l'allégorie du monde. Origène entre dans toutes sortes de comparaisons qui sont très intéressantes. Origène veut nous expliquer pourquoi la capitale du royaume de Séon s'appelle-t-elle Essébon. Essébon veut dire raisonnement, car la partie la plus importante du royaume du diable, l'essentiel de sa puissance, est dans les raisonnements. Très intéressant. Cette partie, l'épée de l'esprit doit la brûler et détruire afin de la reconstruire. Donc on ne laisse pas détruire, point final, on reconstruit. La première Essébon est tombée, elle a été rasée, incendiée, il faut en rebâtir une autre. Et ce sont les chrétiens qui détruisent tous les retranchements que sont les dogmes païens en brûlant au feu de la vérité les échafaudages orgueilleux. Pourtant, ils veillent à ne pas laisser désert et abandonner l'homme en qui l'on a renversé les dogmes païens, et reconstruisent les sébons à nouveau dans le cœur de celui où il a été détruit. Les dépouilles des Égyptiens seront donc utilisables pour la construction du temple de Dieu. Entendons, les compétences anciennes seront utiles pour une nouvelle vie en Christ. Construire l'homme nouveau au sens chrétien est une transfiguration à travers laquelle la chair de l'ancien ressuscite dans la nouvelle, sur la nouvelle colonne vertébrale que le Christ lui-même, qu'est le Christ lui-même dans la vie de chacun. C'est très beau parce que en fait, on n'est pas dans une démarche de détruire quoi que ce soit, où la destruction, c'est justement le premier geste concernant l'être humain, concernant l'âme humaine par rapport à une perspective qui n'était pas salutaire. Donc on détruit cette perspective justement en se servant des dépouilles des Égyptiens, c'est-à-dire de ce qui reste après cette destruction, justement en ne pas laissant cette personne sans une colonne vertébrale, et la colonne vertébrale est le Christ lui-même dans l'âme de chacun, et sur ces colonnes vertébrales on reconstruit l'être humain, et c'est un nouveau être humain dans le Christ. Une autre citation qui est très claire, très intéressante de notre point de vue. Abimelech n'est pas toujours en paix avec Isaac, mais tantôt il est en désaccord et tantôt il demande la paix. Il tient le rôle parmi les partisans du siècle de ce sage qui, par l'étude de la philosophie, sont arrivés à la connaissance de beaucoup de vérités. Par là, vous pouvez comprendre comment, avec Isaac, qui est la figure du Verbe de Dieu contenu dans la loi, Abimelech ne peut être ni toujours en désaccord, ni toujours en paix. C'est super parce qu'on parle des relations théologie et science, et on peut avoir aussi dialogue, aussi conflit, aussi intégration et aussi indifférence. Car si la philosophie n'est pas en opposition avec, en tout avec la loi de Dieu, en tout non plus elle n'est pas en accord avec elle. Cette image est complétée par une autre qui donne l'occasion à Origène de parler de la logique, de la physique, de l'éthique, c'est-à-dire de la philosophie rationnelle, de la philosophie naturelle, de la philosophie morale, dont les symboles sont Abimelech, Okozat et Ficol. Ainsi, selon Origène, ces personnages très au fait de ces sciences et qui vient trouver la loi de Dieu en s'exclame « Nous avons vu que le Seigneur est avec toi ». Et nous avons dit qu'il y ait un serment entre nous et toi et faisons alliance. Elle représente les trois mâches qui ont été conduits par l'étoile au Seigneur. C'est vraiment très beau parce que les étoiles constituaient pour ceux qui cherchaient la connaissance de Dieu, qui plongeaient dans les énigmes de ce monde, constituaient une façon dont Dieu a pu les conduire vers la vérité suprême. Et selon leur don naturel, et donc les mâches qui se déplacent à travers l'étoile, l'étoile bien sûr n'était pas une étoile indifférente à la naissance du Christ, mais justement une étoile conduisant à la vérité suprême. Donc de la même façon, on peut voir de quelle manière les gens qui ont une quête honnête de vérité et qui se servent des outils de ce monde puissent être conduits par Dieu à la vérité suprême à travers leur connaissance de ce monde. Pour Origène, les Saintes Écritures éclairent les rapports possibles entre la théologie et les doctrines philosophiques. Cruzel considère qu'Origène n'entrevoit pas complètement une philosophie composée de tout ce qui contient de vrai les différents systèmes. Pour lui, la philosophie peut être reconnue comme véridique uniquement à travers sa conformité avec les Écritures et non pas par l'exercice de la raison humaine. Et on avance dans la méthodologie du dialogue. Elle doit être issue directement des Écritures. Il n'hésite pas à conseiller aux philosophes la lecture des Saintes Écritures pour trouver solution à leurs problèmes. C'est-à-dire, ils invitent les gens qui ne connaissent pas la vie de l'Église justement de plonger dans les Saintes Écritures pour pouvoir tirer profit et pour pouvoir trouver la réponse à leur solution. Donc, ils ouvrent aux gens qui ne connaissaient pas les Écritures. Ils attirent l'attention sur l'insuffisance de la philosophie, son incapacité à s'ouvrir à une autre pensée et son impuissance, selon lui, à prescrire une dimension axiologique et morale. Ici, il entre dans un dialogue plus ou moins polémique avec les autres, justement pour les provoquer à s'ouvrir. C'est pourquoi il sanctionne Cels, non pas par son manque de foi, chose acceptée, parce qu'il parle avec quelqu'un qui ne vient pas de la vie de l'Église, conscient d'avoir affaire avec un penseur païen, mais pour son manque de rectitude morale qui rend sa quête indigne d'un philosophe. Vous imaginez la force à cette époque qu'on dit qu'à travers la vie chrétienne, nous avons une vie plus correcte que les autres, dû la dignité de ce chemin de vie, d'où l'importance et l'auteur de cette vie par rapport à la vie des philosophes, d'où l'intérêt de pouvoir assumer cette vie. Chez Origène, c'est d'abord l'exégète qui prime. Sa méthode est donc de puiser sans cesse au plus profond de l'univers de la Bible, car la nourriture d'Égypte, c'est-à-dire les doctrines philosophiques, se révèle être d'une utilité médiocre, une fois que nous avons la manne des Écritures. La manne vient d'un nom, bien évidemment, par rapport à la nourriture qu'on peut trouver dans le milieu autour de nous. Cette médiocrité est explicitement dangereuse quand le philosophe ne se met pas à l'abri d'idolâtrer ses propres pensées. On peut voir, même à notre époque, la même perspective. C'est surtout démasquer cette attitude par l'archimandrite Sophronie Sakharov dans ses écrits. Quand l'intellectuel, même l'intellectuel qui se dit théologien, fait un édifice de sa pensée et s'installe confortablement dans cet édifice en ne veillant plus au rapport entre son édifice et la vérité de Dieu qu'on doit connaître par notre métanoïa, par notre changement de l'intelligence, d'intelligence qui doit se produire sans cesse. Donc, on peut dire que l'aspect intellectuel reste secondaire au regard de la vision théologique. Comme Clément, Origène est tenté de choisir dans chaque système philosophique ce que lui semble compatible avec le vécu chrétien. Il rejette aussi des théories scientifiques qui nuisent à la pensée chrétienne, la physique atomiste de l'épicurisme, qui refuse une dimension spirituelle. Pour lui, c'est un véritable athéisme. Il refuse la théorie de l'éther d'Aristote, qui parlait d'astre-dieu. On imagine bien le caractère scientifique de ce rejet à notre époque. La cosmologie stoïcienne, qui lui semble matérialiste. Aussi, le matérialisme est une idéologie, bien aussi qu'à partir des temps modernes. Donc rien d'original par rapport à la position de Clément. Il accepte les philosophies comme héritage sous bénéfice d'inventaire, en prenant la liberté de s'en servir pour ce qu'il considère utile pour la théologie. Donc, comme Clément, Origène est d'avis qu'il faut accueillir tout ce qu'on le trouve de bon chez les philosophes. Il est évident que certains systèmes sont meilleurs que des autres. Les vérités fragmentaires contenues dans la sagesse du siècle viennent de Dieu. La philosophie naturelle, je cite maintenant, c'est-à-dire la physique, représentée par la femme d'Abimélec, et la dialectique, ses servantes, guéries par Jésus de leur stérilité, engendreront et donneront des fils à l'Église. C'est donc le Christ qui rend les sciences profondes spirituellement fertiles en les guérissant de leur stérilité. On va s'arrêter avec notre séance ici. Donc, si vous aurez des questions, n'hésitez pas à me renvoyer par SMS, par email vos questions. Je tâcherai de vous répondre. Je vous remercie de votre attention. J'avoue le fait que ce cours, cette séance m'a fait un plaisir, un vrai plaisir, étant donné que c'est assez unique dans l'histoire du christianisme de ce genre de figure qui vient d'Origène, de Clément, qui sont extrêmement parlantes par rapport à la relation entre la théologie et la science. Donc c'est une séance un peu unique dans le sens où j'ai pu évoquer des chefs-d'œuvre, si on peut dire, de la réflexion chrétienne puisés dans l'Ancien Testament justement pour justifier les rapports et quel genre de rapport entre la théologie et la science. Je vous remercie de votre attention et je vous invite pour la prochaine séance. d'approfondir vous-même, de chercher des ouvrages qui peuvent compléter ce qu'on vient de vous présenter. Je vous dis au revoir à tous, que Dieu nous bénisse tous.